Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse-Marche. Ce sera notre 172e émission et notre 134e chronique que j'ai intitulée aujourd'hui « S'habiller autrefois ». En Basse-Marche. Pour les textes, nous avons fait appel aux auteurs et aux ouvrages et aux articles suivants. Germaine Bariteau, propos sur les vieilles coutumes de la Basse-Marche. Albert Gourceau, la société rurale traditionnelle en Limousin et Basse-Marche. Louis Peignot, bergère, éternelle bergère. Monsieur Dumas Delage, le costume traditionnel limousin charentais. Un monde à percevoir par les cinq sens. Le toucher, par un collectif d'historiens et de généalogistes. Et Louis Texier Olivier, statistique de la Haute-Vienne de 1805.
La Basse-Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Nous allons nous intéresser aux costumes de nos compatriotes à la fin du 19e siècle, une période où l'on a définitivement abandonné les culottes et les guêtres et où apparaît le pantalon. Une époque aussi où l'on va adopter la blouse. Nos compatriotes de cette époque utilisent pour se vêtir les matières dont ils disposent, le bois pour les sabots, la paille, le jonc pour les chapeaux, la laine des moutons pour les tissus de droguet. Dans presque chaque ferme, écrit Yveline David, on élève des moutons dont la laine servira de matière première à la confection de vêtements chauds. L'absence de teinture uniformise leur aspect et il est commun de qualifier leur couleur de celle de la bête. On utilise aussi le chanvre, particulièrement pour les tissus de corps ou les chemises. Nous avons d'ailleurs consacré une émission entière à la culture et à l'exploitation du chanvre. Les paysans plantaient des chènevières. Après la cueillette, le chanvre était trempé et séché avant d'être travaillé sur la quenouille par les femmes pendant les soirées d'hiver. Les écheveaux étaient ensuite confiés aux tisserands du village. Dans nos campagnes, bien des paysans sont aussi tisserands, mais on fait également appel aux tisserands, aux couturières, aux tailleurs ambulants. On fait également appel aux colporteurs qui vendent du tissu, des foulards, de la bonneterie. À la foire, il est fréquent dans nos campagnes de Basse-Marche que les femmes vendent leurs chevelures, ou plutôt les échangent contre des robes, des pièces de tissu ou des cotonnades.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Germaine Bariteau, dans ses propos sur les vieilles coutumes de la Basse-Marche, nous explique comment s'habillaient les garçons et surtout les filles de la région de Château-Ponsac qui se rendaient au bal de la Bouéropila le 29 janvier. Les garçons en costume limousin, blouse bleue et gonflante, chapeau noir à large bord, foulard bariolé, petite cravate nouée sur la chemise de toile blanche, répondait aux joyeux ifoufou poussés par d'autres jeunes paysans allant par d'autres chemins. Les jeunes filles étaient accompagnées de leur mère qui, munie de lanternes à la flamme tremblante, éclairait tant bien que mal les difficultés des sentiers. Toutes, mères et filles, frileusement encapuchonnées, portaient d'amples capotes, capotes de bergère en droguet gris pour les unes, capes en fin cachemire noir et bordées d'une large bande de velours pour les autres plus riches. Arrivées au café, dans une chambre mise à leur disposition, elles quittaient rapidement leurs sabots lourds et boueux et prenaient des socques propres et plus légères, portées dans de jolis petits paniers à couvercle en osier noir ou marron. Après avoir déposé ou confié à leur mère leurs encombrantes mantes, elles apparaissaient au bal toutes fraîches, jolies et fringantes, la taille dégagée dans leurs longues robes bleues, vertes ou marron, aux jupes froncées et aux corsages plus ou moins ajustés. Ces derniers remplaçaient peu à peu le caraco droit tombant sur la jupe portée cependant bien longtemps après par les très vieilles grand-mères. Coquettes, elles avaient enjolivé ce corsage d'une large collerette blanche en guipure ou d'un petit châle en cachemire jaune et marron croisé sur la poitrine. Les plus riches complétaient cette toilette par nos civignaux, broches achetées au colporteur, par des boucles d'oreilles en or ou même par un long sautoir en argent retenant une montre passée dans la ceinture de la jupe. Elles portaient toutes l'eau de ventcha, tablier noir ou à fleurs, en soie ou en coton, et arborait en ce jour de fête la coiffe en mousseline blanche, au fond merveilleusement brodée, au bord finement plissé ou tuyauté par la repasseuse de la ville. C'était une sorte de petit bonnet bien différent du luxueux barbichet, pourtant en usage tout près, vers le sud, à quelques kilomètres seulement, à Saint-Pardoux ou à Saint-Symphorien. Moins saillant aussi, il ne laissait apparaître de la chevelure que deux minces bandeaux étroitement roulés. Un ruban large de 5 cm environ, en moire ou en gros grain, posé autour de la tête, enrichissant avantageusement cette petite coiffe sans prétention, en formant sur la nuque un nœud plat dont les longs pans retombaient droits et nets dans le dos. On le comprend, les costumes que nous présente ici Germaine Mariteau, ce sont des costumes de fête et des dimanches. Albert Gourceau, dans son ouvrage « La société rurale traditionnelle en Limousin et Basse-Marche », nous décrit ces costumes de fête et des dimanches, mais de manière plus ordonnée. Commençons par le costume des hommes. Il comprenait les éléments suivants. Chemise de toile bise à bannière avec haut col ou bord de cou empesé, rabattu sur une large cravate de soie noire, à liseré noué autour. Des pantalons que l'on continuait à désigner sous l'appellation de braies, un gilet, souvent à double rangée de boutons, par-dessus le gilet, dans une partie de notre territoire, une veste courte. C'est là qu'intervient la fameuse blouse des Limousins et des Marchois. Voici ce qu'écrit Albert Gourceau. Lorsque vers le milieu du XIXe siècle, la blouse fut, selon Dosa, importée des Flandres, elle obtint tout de suite un immense succès dans le monde paysan et principalement chez les jeunes. Si les anciens restèrent fidèles très longtemps encore à la roupeau, à la veste courte, les jeunes gens portèrent désormais un gilet de dessous boutonné et par-dessus une grande blouse bleue. À noter que la blouse a été aussi portée par les ouvriers jusqu'au milieu du XIXe siècle. Son usage a été conservé longtemps dans nos campagnes. Ce sont les maquignons qui, d'ailleurs, la portèrent le plus longtemps. Quant à la coiffure, c'était le chapeau classique de feutre noir à calotte ronde et à large bord. Les hommes ne portaient jamais ni manteau ni pèlerine. Par grand froid, ceux qui avaient à sortir pour se rendre à la foire ou à une cérémonie familiale mettaient simplement quelques tricots supplémentaires sous leur blouse, s'ils étaient à pied, et s'ils étaient en voiture, ils revêtaient une mante de laine, une limousine. Thank you. Nous allons nous intéresser maintenant aux costumes des fêtes et des dimanches des femmes. Voici les pièces de vêtements de femmes. Chemise de chanvre à la Vierge avec manches évasées. Deux jupons, un premier cotillon léger, parfois en soie, et par-dessus un autre, plus chaud, généralement en pilou, c'est-à-dire en tissu de coton gratté. Une jupe, une chemisette ou brassière, et l'été, une camisole de toile, et l'hiver, un corsage de laine, un caraco. Le tablier, le devancha, sur le corsage, un grand châle, imitation cachemire que l'on croisait sur la poitrine et dont les pointes retombaient dans le dos. Selon la classe sociale, tantôt de hauts souliers, d'abord à lacets et ensuite à boutons, tantôt des sabots à brides en bois verni. Sur la tête, une coiffe dont nous a parlé Germaine Mariteau. En hiver, ou lorsque la famille était en deuil, une ample mante à capuchon, dont le tour et les parements étaient bordés d'un large ruban de velours noir.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons laisser ces vêtements des dimanches et des fêtes pour nous intéresser aux vêtements de travail. Dans Bergère éternelle bergère, Louis Peignot précise que concernant les paysannes, il leur était loisible d'utiliser force rotaillons blancs, bleus ou roses, d'étoffes fines, restes de la blouse, du tablier ou de la chemise que venait de couper la bergère. En ces temps d'argent rare, l'aisance n'était pas encore dans tous les foyers. Toutes les femmes ne pouvaient offrir aux oiseaux de fins tissus pour leur nid. Il fallait encore rapetasser, tailler dans les vieilles nippes, remettre des genoux ou des fonds aux pantalons, agrandir les bords de cou des chemises, porter jusqu'à l'usure les cotillons d'étain. En effet, pour vêtements de tous les jours, on ne mettait que de vieux habits. Et comme on ne renouvelait sa garde-robe que 5 ou 6 fois dans la vie, ses habits de travail n'étaient faits que de pièces et de morceaux, ce qui a pu faire dire à des observateurs superficiels que nos paysans étaient vêtus de haillons. Il est vrai que certaines parties du costume, comme les pantalons usés aux genoux et les vestes, usé au coude, aurait pu être regardé comme de véritables objets de musée en raison de l'échantillonnage des pièces de tissu qui avaient servi à les remettre en état. Le paysan portait une chemise très grossière en toile de chanvre avec des manches longues et une petite ouverture. Elle n'avait pas de col et elle était relativement ample. Sur cette chemise, les paysans portaient souvent un petit gilet rarement boutonné. Les pantalons étaient faits d'un tissu de chanvre et de laine qui donnait un tissu grossier, épais et lourd. Thank you.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Quant aux femmes, elles portaient de grands jupons en matière grossière et selon la saison, elles en portaient plusieurs superposés. Sur le jupon, il y avait la jupe. En fait, le costume se composait de deux pièces, la jupe et le caraco très ajusté. La jupe était souvent très froncée dans le dos. Elles étaient très longues jusqu'au niveau de la cheville. Et quand les femmes travaillaient, en particulier dans les champs, grâce à ces fronces, elles pouvaient lever les jupes par les côtés et les rentrer dans la ceinture. Le tablier était un tablier de toile noire qui se nouait à la taille. Il n'avait pas de bavette.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons revenir un instant sur deux caractéristiques du costume masculin. La ceinture de flanelle. Les hommes, écrit M. Dumas Delage dans un article « Le costume traditionnel limousin charentais », les hommes donc serraient le pantalon dans une large ceinture de flanelle enroulée par-dessus. Parfois bleue, elle était le plus souvent rouge. En basse marche, elle est plutôt de couleur grise et était enroulée par le dessous. Elle permettait de tenir chaud aux reins. Le mouchoir, et je parle ici du mouchoir de col et non du mouchoir de nez, ce grand mouchoir à carreaux était noué autour du cou pour arrêter la sueur, la poussière, les brins de paille ou de foin. Avant d'en venir aux chaussures et aux chapeaux, nous allons nous intéresser au linge de corps. Chez les hommes, les sous-vêtements n'existaient pas. Il n'y avait pas de caleçon, pas plus que de slip. Il faudra attendre le cours du XXe siècle pour les voir apparaître. Concernant les femmes, voici l'extrait d'un article « Un monde à percevoir par les cinq sens, le toucher ». Jusqu'au début du XXe siècle, chez les plus humbles, hommes et femmes, au champ comme dans les ateliers, le seul sous-vêtement était la chemise de toile de chanvre. On sait combien la toile de chanvre était rêche, à tel point que certains riches les faisaient porter par leurs domestiques pour les assouplir. Cette chemise de toile de chanvre était portée très longue, pans rassemblés entre les cuisses. Elle n'était changée que le dimanche. Et souvent, on ne la quittait pas même pour dormir. Sinon, il fallait bien s'en revêtir au petit matin d'hiver, encore humide de la sueur de la veille, glacée dans des chambres sans chauffage. Par la suite, le chanvre sera remplacé par du lin ou du coton, beaucoup plus doux. Il n'y avait pas d'autres sous-vêtements, pas de culottes, rien du tout, que la chemise, déclarait une ancienne paysanne dans les années 1980. Et concernant la culotte, elle ajoute « Je vais vous dire comment nous faisions. On prenait le pan de devant de la chemise et on le passait devant. On prenait le pan de derrière et on le faisait revenir devant et on attachait avec une épingle. »
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Alors comme chaussures, écrit Albert Gourceau, on ne portait guère que les lourds sabots de noyer, mais ce pouvait être aussi de l'aulne, du bouleau, du hêtre ou du frêne, que l'on chaussait souvent pieds nus l'été ou avec des chaussons de laine l'hiver. Beaucoup de paysans qui avaient la peau fragile et particulièrement sensible à la température y plaçaient en outre à l'intérieur de petites semelles en paille ou en foin. Monsieur Dumas Delage nous précise que, outre les chaussons tricotés, on portait aussi des chausses montant à mi-mollet, tricotées à grosse côte, ce qui les raidissait. Parfois, on place aussi dans les sabots une petite semelle en basane. C'est un cuir mince et souple, fait avec de la peau de mouton. En fait, le bois isole bien le pied du froid et de l'humidité. Certaines paysannes réussissent parfois à acheter des galoches, semelles de bois et tiges en cuir ou des souliers. Mais comme il fallait les économiser, lorsque les paysannes allaient au bourg ou à l'église, elles utilisaient leurs sabots, les quittaient en arrivant au bourg et les remplaçaient par des souliers qu'elles portaient dans un panier.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Je ne vais pas revenir longuement sur les coiffes des paysannes de la Basse-Marche. Germaine Bariteau nous a expliqué en début d'émission combien les coiffes des Bas-Marchoises étaient plus simples que le traditionnel barbichet limousin. Albert Gourceau nous en donne une définition pour la région de Mézières-sur-Issoire. Cette coiffe était constituée de trois parties essentielles. Le fond, un carré de dentelle ou de batiste, toile de lin ou de coton, le devant, qui est une longue bande rectangulaire, la passe, un galon semi-circulaire servant à rattacher l'une à l'autre les deux pièces précédentes. Notons que cette passe était munie au niveau de la nuque du passillon, dans lequel coulissaient deux tresses avec lesquelles on fixait cette coiffure de dentelle. Ajoutons que les femmes n'allaient pas chez le coiffeur, elle faisait des tresses et des chignons. Plus tard vint la mode des chapeaux que l'on produisait dans quelques chapelleries de Bellac, du Dorat, de Maillac-Laval ou de Château-Ponsac, qui produisaient aussi les chapeaux de feutre noir à large bord des hommes. On portait encore particulièrement l'été des chapeaux de paille ou de jonc. Concernant la Charente limousine, Monsieur Dumas Delage nous précise, sur la tête, l'homme portait aussi un bonnet de laine tricotée bleue ou brune avec une longue pointe. Les paysans se fabriquaient eux-mêmes des chapeaux de paille ou de jonc qui avaient un bord assez large et une calotte plus ou moins haute. Hommes et femmes portaient les mêmes. Ces chapeaux étaient fabriqués d'une tresse de paille ou de jonc à 5 brins. Quand on avait obtenu une tresse d'une quinzaine de mètres, on la cousait en spirale après l'avoir mouillée et en se servant d'un rondin de bois comme forme. On utilisait de la paille blanche de bonne qualité pour obtenir une bonne tresse.
La laine des moutons, c'est nous qui la tendons. La laine des moutons, c'est nous qui la tendons. Tendons, tendons. La laine des moutaines, tendons, tendons. La laine des moutons. La laine des moutons, c'est nous qui la lavons. La laine des moutons, c'est nous qui la lavons. Lavons, lavons. La laine des moutaines, lavons, lavons. La laine des moutons.
Bien que la mode n'ait guère atteint nos campagnes de Basse-Marche qu'à la fin du XIXe siècle, et bien que l'on ne changeait de garde-robe que 5 ou 6 fois dans une vie, la production des vêtements, chaussures, sabots, coiffes ou chapeaux produisit une intense activité, souvent peu spécialisée. Ce sont les paysannes qui filent la laine ou le chanvre, et bien des paysans sont aussi tisserands ou sabotiers. Néanmoins, dans la statistique de 1805 de Louis Texier-Olivier, on trouve des filatures de lin et de chanvre, des fabriques de toiles de lin et de chanvre, quelques filatures de coton, des teintureries pour les fils de coton de lin et de chanvre, des fabriques de toiles mélangées de chanvre et de coton, des ateliers de bonnets de coton ou de laine, des fabriques de mouchoirs, des fabriques de sabots. On en compte, en 1805, plus de 500 en Haute-Vienne. Des teinturies de laine, des draperies de flanelle, de derge et de droguet. Nous avons d'ailleurs, au cours de nos émissions, étudié la fabrique de draps de Lacour, dans la commune de Dompierre-les-Églises, et aussi quelques chapelleries. Pour terminer, il convient de parler de l'activité des tailleurs et des couturières de village. Et voici comment Louis Peignot nous décrit l'évolution du métier dans Bergère, éternelle bergère. Pour la frairie prochaine, les jeunes filles voulaient se faire belles. Le tailleur et la couturière ne venaient plus comme autrefois travailler à domicile pendant toute une semaine dans la même maison contre leur nourriture et un petit salaire. L'un et l'autre étaient devenus des personnages importants qui trônaient derrière leur comptoir et devant des rayons où s'empilaient des coupons d'étoffe. Ils ne venaient plus au village, c'est le village qui allait vers eux. Les vieilles femmes ne les occupaient guère, soucieuses seulement d'avoir une belle coiffe blanche que la repasseuse leur apprêtait avec art et soin. Les dimanches, elles partaient pour la messe avec leurs galoches de cuir verni, leurs amples jupes de drap du pays, leurs caracos et leurs pèlerines de laine noire finement tricotées et ordonnées de dessins compliqués. Quelques femmes plus jeunes portaient des souliers. La mode attaquait le costume traditionnel par les pieds sans réussir jamais à atteindre la tête et remplacer la coiffe aux larges rubans blancs par de lourds chapeaux cloches dont se paraient les jeunes filles. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche, dont le titre fut « S'habiller autrefois en basse marche ». Pour les textes, nous avons fait appel à Yveline David, Germaine Bariteau, Albert Gourceau, Louis Peignot, Monsieur Dumas Delage et Louis Texier-Olivier. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel à la chanteuse Carmen Campagne, au musicien Massimo Craveri, au groupe Maluzerne, Bois et Cornemuse, au groupe musical de Ghana et aux Éoles que nous écoutons en ce moment. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc et très bonne semaine à vous tous.
Petites et grandes histoires de la basse marche.